Bonjour et bienvenue, 11h TU, midi, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, une station de bus percutée par un camion ce matin en Israël, près d'une base militaire. Il y a au moins 24 blessés, dont certains dans un état grave. Le chauffeur du camion a lui été neutralisé. La toute première réaction du guide suprême iranien au lendemain des attaques israéliennes contre des sites militaires. Il ne faut selon lui ni exagérer ni minimiser ces attaques. À suivre le reportage de Michel Paul sur les réactions dans l'état hébreu. En Géorgie, les élections législatives ont été officiellement remportées par le parti au pouvoir. L'opposition pro-européenne dénonce des élections volées et refuse de concéder sa défaite. Dans ce journal aussi, le Japon où se tiennent ce dimanche des élections législatives et le classique de la Ligue 1 de football. Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce soir au stade de Vélodrome. Il ne faut ni exagérer ni minimiser les frappes lancées hier par Israël contre des sites militaires en Iran. Donc c'est le guide suprême qui l'affirme, l'ayatollah Ali Khamenei, dans une première réaction sur le réseau social X. Il dénonce un mauvais calcul de la part d'Israël, mais sans rien dire d'une éventuelle riposte iranienne à la riposte israélienne. En Israël maintenant, la classe politique est divisée, réaction mitigée aussi de l'opinion publique. Si l'opération d'hier matin a été couronnée de succès, la population n'en reste pas moins inquiète pour la suite. Écoutez le reportage à Jérusalem de Michel Paul.
En civil, mais il ne quitte pas son fusil d'assaut, Arnon est réserviste. Après Gaza, il sert maintenant au sud Liban. Pour lui, les frappes israéliennes sur l'Iran sont une bonne chose.
Super, il faut montrer de la puissance maintenant. Nous sommes en guerre. Je crois aussi qu'il faut arriver à un accord politique. Mais dans notre situation, il y a une dynamique positive pour faire preuve de force et montrer à l'Iran qu'il ne faut pas jouer avec nous. C'est totalement positif.
Plus partagé, Lilar se pose des questions. Elle craint une escalade et aussi les répercussions au sein de la société en Israël.
Malheureusement, on n'a pas d'autre choix que d'agir ainsi. Israël doit se tenir debout fermement et se défendre. Malheureusement, cela entraîne des choses moins sympas. Mais j'ai confiance dans l'armée. Elle fait ce qu'il faut faire.
À la fin du Shabbat, Tzvi vient d'entendre les nouvelles à la radio. Pour lui, toutes les options sont possibles.
Je pense que c'est normal, c'est une riposte normale aux 200 missiles qui ont été envoyés sur Israël le 1er octobre. Voilà. Je pense que les Iraniens vont peut-être riposter. Ça n'est pas impossible.
La guerre est loin d'être finie, estime-t-il encore. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
On reste en Israël avec au moins 24 blessés. Un camion a percuté une station de bus. C'était ce matin à Ramat HaSharon, dans le centre du pays, à la sortie d'une base militaire. Selon les services de secours, 4 blessés dans un état grave ont été évacués vers des hôpitaux de la région. Le chauffeur du camion, lui, a été neutralisé. Depuis le 6 octobre, l'armée israélienne est à l'offensive dans le nord de la bande de Gaza, où selon elle, le Hamas regroupe ses forces. Mais dans le même temps, une reprise des pourparlers paraît possible après la mort du chef du Hamas Yahya Sinwar. Le chef du Mossad, les services extérieurs d'Israël, doit rencontrer ce dimanche au Qatar son homologue de la CIA ainsi que le Premier ministre qatari. En Géorgie, les élections législatives ont été officiellement remportées par le parti au pouvoir, le rêve géorgien. La coalition pro-européenne a dénoncé des élections volées et refusé de concéder sa défaite. Défaite qui éloignerait la petite république du Caucase d'une adhésion à l'Union européenne et la rapprocherait de Moscou. Régis Janté est à Tbilissi pour RFI.
Avec 54% des suffrages, selon les résultats désormais officiels, le rêve géorgien sort vainqueur du scrutin. Une victoire qu'il célèbre en a affirmant avoir reçu une confortable majorité, mais très loin de la majorité constitutionnelle, à 75%, qu'il disait viser. Ce samedi après-midi encore, le parti au pouvoir, à travers ses déclarations et les sondages qu'il rendait publics, disait aussi que seuls 2 partis d'opposition entreraient dans le futur Parlement, ce qui devait considérablement renforcer son nombre de sièges dans l'Assemblée, compte tenu de la règle de la proportionnelle intégrale. Au final, le rêve géorgien va devoir partager les sièges avec 4 autres partis et coalitions d'opposition. Selon ses résultats officiels, le parti au pouvoir devrait occuper autour de 60% des 150 sièges de députés. Les 40% restants étant partagés entre ses opposants, tous signataires de la charte pro-européenne proposée par la présidente Salomé Zourabichvili. 2 des 4 formations d'opposition refusent de reconnaître les résultats, les 4 promettant d'aller maintenant dans la rue pour y défendre leur vote. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Et hier, le taux de participation législative a été de 58%. C'est l'un des plus hauts observés depuis une dizaine d'années en Géorgie.
Radio France Internationale.
J-9 avant la présidentielle américaine du 5 novembre. À New York, les supporters de Donald Trump ont rendez-vous ce soir au légendaire Madison Square Garden. Dans le même temps, la démocrate Kamala Harris a prévu de ratisser le terrain à Philadelphie, dans l'état de Pennsylvanie. Considéré comme crucial, c'est l'un de ceux qui devrait faire la différence. On vote aussi au Japon, élection législative ce dimanche. Le parti libéral-démocrate, parti conservateur, est aux affaires pratiquement sans discontinuer depuis 1955. Il pourrait perdre sa majorité, mais c'est surtout l'abstention qui devrait culminer. Les scandales à répétition ainsi que les difficultés économiques ont alimenté la défiance des Japonais envers la classe politique. Nicolas Rocca a recueilli l'éclairage d'une spécialiste, Guibourg Delamotte, professeur à l'INALCO et à Sciences Po. Le paysage politique n'aide pas, selon elle, à mobiliser l'électorat japonais.
La lisibilité, disons, de l'offre politique, elle se clarifie un peu. Hein. C'est vrai qu'on a, on a vraiment des programmes distincts qui s'opposent. Donc ça devrait plutôt jouer dans un sens pour clarifier les choix électoraux. Donc c'est plutôt positif en principe. Mais c'est vrai que la population finit par avoir le sentiment que les choses ne changent pas. On se retrouve avec M. Ishiba, qui est quelqu'un d'assez âgé maintenant. M. Noda, qui a déjà été Premier ministre. M. Ishiba, qui a essayé d'être Premier ministre un grand nombre de fois, qui a eu en fait des postes au gouvernement. Si bien que pour la population, en fait, on se retrouve avec deux personnalités assez similaires, puisque l'un comme l'autre ont été transfuges du PLD dans les années 90, avec l'un qui est resté donc hors du parti, et puis l'autre qui a réintégré le parti, M. Ishiba. Donc, il n'y a pas beaucoup de renouvellement pour la classe politique. Face à ces deux personnages, Ichin no Kai, donc un parti qui est très à droite, lui, émerge depuis quelques années déjà. Et le Likken Mishito, lui, donc le parti démocrate, il est quand même très à gauche pour une grande majorité de l'électorat, en fait.
Un nouveau drame de l'immigration dans la Manche entre l'Angleterre et la France. Un migrant de nationalité indienne est mort ce matin lors d'une tentative de traversée. Ce décès vient s'ajouter à deux naufrages mortels ces 10 derniers jours. On passe au sport. En Espagne, le Classico a tourné à la démonstration pour le FC Barcelone. Le Barça, très facile vainqueur hier soir du Real Madrid sur la pelouse du Bernabéu. Score final 4-0. En France, le championnat a lui aussi son classique. L'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce soir au stade Orange Vélodrome. La confrontation des deux clubs rivaux s'annonce plus indécise que les précédentes. L'écart semble être réduit entre un PSG moins impressionnant et qui n'a plus Kylian Mbappé et une équipe marseillaise en progression. Côté parisien, on s'efforce tout de même de rester confiant. Cédric De Oliveira.
Pour les supporters parisiens, affronter Marseille, c'est toujours un événement. Et même si la rivalité n'est plus la même que dans les années 90, elle est bien présente dans leurs esprits.
C'est la tradition. C'est la tradition. On m'a toujours élevé comme ça, c'est tout. Ça ne changera pas.
C'est comme ça. Hein. On ne peut pas se les voir. Ils sont insupportables. Normalement, on y va, on gagne, c'est tout. Même pas de question.
Avec son nouvel entraîneur innovant Roberto De Zerbi, l'OM a pourtant montré de belles choses depuis le début de la saison. Mais ça n'empêche pas les fans du PSG d'être confiants. Pour eux, impossible de perdre au Vélodrome.
Ah oui, c'est même pas concevable de toute façon. Sinon, il va y avoir du ménage.
On a hâte, mais c'est au Vélodrome. Pareil, c'est notre ambiance, on sait très bien comment on va être accueilli.
Marseille, il y a quoi? Cette année, ils ont une belle équipe, ouais, ça recommence, mais il y a quoi? Paris, normalement, c'est taillé pour la Ligue des Champions.
Peu rassurant cette semaine en Ligue des Champions contre Eindhoven, le PSG compte donc sur ce classique pour se remettre la tête à l'endroit. Présent au club depuis 2013, le capitaine Marquinhos sait à quel point ce match pourrait être un des tournants de la saison.
On sait que c'est le match le plus important de la saison. Et moi, c'est ma deuxième saison, je sais comment c'est important ce match-là. Les classicos, ça se joue pas. Je pense qu'il va falloir aller là-bas et gagner et ramener cette victoire à la maison pour nos supporters.
Et le défenseur brésilien sait obtenir de bons résultats au Vélodrome. En Ligue 1, il n'a jamais perdu dans le chaudron marseillais. La dernière défaite parisienne en championnat a eu lieu en 2011.
Marseille-Paris-Saint-Germain, coup d'envoi ce soir, 19h45, temps universel. En tennis, un Français en finale du tournoi de Bâle, le jeune et prometteur Giovanni Pecci Pericard, 21 ans. Il joue en finale cet après-midi contre l'Américain Ben Shelton. Enfin, le record du monde du semi-marathon est tombé, 57 minutes 30 centièmes. C'est le temps réalisé ce matin à Valence, dans le sud de la France, par l'Éthiopien Yomif Kejelcha. Et pourtant, il pleuvait à Valence. Très bonne journée sur RFI, il est pratiquement midi 10 à suivre l'atelier des médias.